Nous allons garder un moment de silence alors que nous nous apprêtons à recevoir sa parole. Alors qu'arrive le moment où nous devons nous asseoir très humblement, avec révérence, avec crainte, aux pieds de notre Maître et lui tendre une oreille attentive, afin qu'il dépose dans nos cœurs, par son esprit, au travers de sa parole, sa pensée. Et que cette pensée finisse par nous transformer en son image, par nous faire ressembler à lui, par nous métamorphoser, nous transfigurer. Merci Seigneur d'avoir été avec nous pendant ce temps, ô Dieu, ce temps de louange, ce temps d'adoration, ce temps qui nous a permis de nous approcher de toi pour t'exprimer nos sentiments sous forme de chant, ce temps qui aura été une opportunité pour nous de nous réjouir en ta présence, de nous ouvrir à toi afin que par ta présence, Seigneur, tu puisses déposer dans nos cœurs ce dont nous avons vraiment besoin pour une vie à la gloire de ton nom, pour une vie plus qu'épanouie, pour une vie qui va de gloire en gloire, de victoire en victoire. Après ce temps, nous voulons te tendre une oreille attentive. Après ce temps, Seigneur, nous voulons nous asseoir à tes pieds, demeurer dans ta présence et recevoir ta parole depuis ta présence, car c'est alors que cette parole accomplira l'œuvre pour laquelle elle sera sortie de ta bouche par le biais de ton serviteur. Parle-nous, fais-nous du bien au nom de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur, veuillez vous rasseoir. Alléluia. Bon appétit. C'est toujours une grâce de nous retrouver à la table du Seigneur et de manger à notre faim une nourriture qui nous vient d'en haut. Car il n'y a que ce qui vient de la part du Seigneur qui est susceptible de nous transformer en son image, qui est susceptible de nourrir notre âme, qui est susceptible d'apporter la guérison à nos corps affaiblis par la maladie, susceptible, mes amis, de faire un travail qui nous amène à avoir une vie éclatante, une vie rayonnante, une vie flamboyante. Car sa parole ne déclare-t-elle pas que nous sommes la lumière du monde? Alléluia. Que Dieu soit béni. À partir d'aujourd'hui, et je ne sais pas combien de temps cela nous prendra, nous allons parler du lieu où il fait bon d'être. Du lieu, mes amis, qui reste un lieu secret, secret dans le sens, pas dans le sens mystique du terme, voyez-vous, non pas du tout, secret parce qu'il faut connaître le chemin qui conduit à ce lieu, il faut connaître eh bien, les différentes balises, il faut avoir le GPS d'en haut pour pouvoir arriver à ce lieu où il fait bon d'être. Alléluia et gloire au Seigneur. Nous allons lire dans Marc chapitre 9. Allez rejoindre le Seigneur sur cette montagne qui désormais sera appelée montagne de la transfiguration, une montagne près de la mer de Tibériade, mer de Galilée. Et là, quelque chose d'extraordinaire va se passer. Chapitre 9 de Marc, à partir du verset 2 jusqu'au verset 9, nous lisons. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il les conduisit seuls à l'écart évidemment, sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants et d'une telle blancheur qu'il n'y ait pas de blancheur sur terre et qu'il puisse blanchir ainsi. Élie et Moïse leur apparurent. Ils s'entretenaient avec Jésus. Pierre prit la parole et dit à Jésus, « Rabbi, il est bon que nous soyons ici. Dressons trois tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Ils ne savaient que dire, car l'effroi les avait saisis. Une nuée vint les envelopper et de la nuée sortit une voix, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. » Aussitôt les disciples regardèrent alentour, mais ils ne virent plus personne que Jésus seul avec eux. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur recommanda de ne raconter à personne ce qu'ils avaient vu, jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. Amen. Nous sommes donc le 25 février, dernier dimanche de ce mois de février. Vous voyez comment le temps file vite. Dernier dimanche, et à cette occasion, je voudrais, frères et sœurs, vous inviter à un voyage. Un voyage qui va consister à gravir, à escalader, et ce par la foi, la montagne de la Transfiguration, cette montagne que beaucoup de spécialistes de la Bible assimilent au mont Tabor. Demandez à chacun de nous, mes amis, de rejoindre Pierre, Jacques et Jean dans cette expérience qui les a conduits au sommet pour vivre des choses qui les auront à tout jamais marquées. C'est donc une invitation à l'alpinisme spirituel. Vous connaissez l'alpinisme, ce sport qui consiste à escalader les montagnes. Voyez-vous, ce sport n'est pas à la portée de tout le monde. Vous voyez, et les gens qui s'élancent dans ce genre de défi, par exemple aller gravir le mont Everest, quand ils arrivent au sommet au prix de 1000 efforts, eh bien, ils témoignent souvent qu'ils sont envahis par un sentiment difficile à décrire. Ils arrivent enfin où tout le monde ne peut pas arriver comme ça au hasard. Au terme d'un long parcours, après avoir payé un grand prix, un prix fort, les voilà enfin au sommet de l'Himalaya. Et donc, nous allons pendant quelques semaines voir comment nous pouvons nous lancer dans cet exercice, dans ce sport spirituel qui consiste, mes amis, à gravir la montagne de la Transfiguration afin de faire l'expérience de Pierre, Jacques et Jean, gloire à Dieu, car l'objectif n'est pas simplement d'amorcer la montée, l'ascension de cette montagne sainte, mais l'objectif c'est que nous arrivions au sommet et que nous expérimentions ce que les trois disciples ont expérimenté, c'est-à-dire vivre dans la présence du Seigneur des moments mémorables, des moments précieux, des moments inoubliables, des moments qui nous marquent à tout jamais, des moments qui auront contribué à notre métamorphose, à notre transfiguration, car ce n'est que dans ce lieu-là, au sommet de la montagne, dans ces lieux saints, dans ces lieux secrets, qu'alors ce travail de transformation profonde, ce travail de métamorphose profonde peut donc être amorcé, peut donc se faire dans la présence du Seigneur. Alléluia. Cette expérience a tellement marqué l'apôtre Pierre qu'il s'en souviendra beaucoup d'années plus tard. Cette expérience l'aura marqué à tout jamais. Cette expérience aura laissé en lui une marque indélébile, ineffaçable, une empreinte indélébile, une expérience, mes amis, qui a fait que cet homme, malgré l'âge, avec le temps, eh bien, il s'en est souvenu. Dans 2 Pierre, chapitre 1er, versets 17 à 18, il nous est dit ceci, « Car il, donc Jésus, a reçu honneur et gloire de Dieu le Père quand la gloire pleine de majesté lui fit entendre cette voix, « Celui-ci est mon fils, bien-aimé, objet de mon affection. » Nous avons entendu cette voix, ajoute-t-il, cette voix venant du ciel, lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Alléluia. C'est une expérience qu'il avait faite plusieurs années auparavant, mais il pouvait s'en souvenir comme si c'était hier, tellement l'expérience l'avait retourné dans tous les sens, tellement l'expérience l'avait transformé, l'avait métamorphosé. Gloire au Seigneur, alléluia. Revenons à cette expérience que les trois disciples, que ces trois personnes ont eu à faire là au sommet de la montagne sainte. Trois individus de la même nature que vous et moi, qui ont eu un jour à rencontrer le Seigneur dans leur parcours ici-bas. Trois individus en proie aux mêmes faiblesses que vous et moi, qui ont eu, mes amis, dans leur vie ici-bas, avoir la grâce de rencontrer le Seigneur de gloire. Ce fut une expérience exceptionnelle, une expérience unique pour ces trois disciples. Et par rapport à cette expérience, nous pouvons affirmer qu'il ne nous sera certainement jamais possible de vivre ce que ces trois disciples ont expérimenté ce jour-là, dans la présence du Seigneur, alors qu'il brillait de plus en plus, qu'il était flamboyant, qu'il était éclatant, resplendissant, alors que ses vêtements brillaient, mes amis, comme la lumière de l'éclair. Et en même temps, il discutait, il échangeait, il parlait avec Moïse et Élie. Quelle expérience, mes amis! Les trois étaient des Juifs. Les trois ont grandi dans la Torah. Les trois étaient familiers des Saintes Écritures. Ils étaient familiers de l'enseignement de Moïse. Ils savaient, ils connaissaient l'histoire d'Élie. Jusque-là, c'était de l'histoire, voyez-vous. Mais là, ce qui relevait simplement de la connaissance livresque, de la connaissance historique, devient une réalité palpable. Alléluia. Moïse est bien devant eux. Élie est bien devant eux. Et au milieu, il y a le Fils de l'homme, Jésus de Nazareth, resplendissant comme le soleil, brillant comme plus que toutes les étoiles de l'univers mises ensemble. Quelle expérience singulière, quelle expérience extraordinaire. En lisant le même texte, le même passage, dans les deux évangiles de Matthieu et Luc, nous pouvons voir par exemple que dans Matthieu 17, verset 2, Matthieu dit que Jésus fut transfiguré, métamorphosé devant eux. Son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Est-ce que nous pouvons nous imaginer, mes amis, cette vision extraordinaire? C'est ce genre de vision qui devrait marquer nos cœurs. À chaque fois que nous fermons les yeux pour louer et adorer le Seigneur, nous devons entrer, mes amis, dans la présence du Seigneur et nous laisser éblouir par cette lumière, par cette gloire. À chaque fois que nous tournons vers le Seigneur, nous devrions être remplis de l'atmosphère qui règne dans le Saint des Saints, dans le palais céleste. Et Luc d'ajouter au chapitre 9, verset 29, pendant qu'il priait, oui, sur cette montagne, il les avait amenés parce qu'il avait quelque chose à leur communiquer. Il les avait amenés pour qu'ils découvrent une autre dimension de qui était celui qui les avait appelés. Une autre dimension dans leur marche avec lui, qu'ils ne se contentent pas simplement de le suivre, mais qu'ils sachent qu'il était véritablement, alléluia, qu'il était celui dont la vie était le cœur même de la révélation biblique. Luc nous dit au chapitre 9, verset 29, pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea. Quelque chose se passe pendant qu'il brille. Quelque chose se passe alors qu'il est en communion avec son Père. Quelque chose se passe, nous le verrons dans la suite de notre sujet. C'est rare qu'on nous donne les paroles que le Seigneur présentait à son Père. On nous dit simplement qu'il brillait. Enfin, peu importe. Et puis, non seulement son visage changea, mais l'auteur inspiré ajoute, son vêtement devint d'une blancheur éclatante. Gloire à Dieu, alléluia. D'une éclatante blancheur. Le mot que Luc utilise, qui maîtrisait très bien le grec de la koiné, c'est-à-dire c'était le grec parlé à l'époque, vous aviez le grec académique, c'est comme aujourd'hui, hein. Il y a le français que tout le monde parle. Quand vous allez à Marseille, c'est un autre accent, je vous dis 50. Quand vous allez à Paris, c'est un autre accent. Quand vous allez dans le nord, c'est un autre accent, hein, beau, hein, c'est beau, 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 enfin bref. Et lui maîtrisait le grec. Et le terme qu'il utilise, et que nous avons traduit par éclatant, désigne littéralement la lumière de l'éclair. Avez-vous déjà vu l'éclair pendant un temps d'orage? Qui a osé rester avec ses yeux grandement ouverts, contemplant l'éclair? Vous pourriez être frappé de cécité. C'est une lumière extraordinaire. Eh bien, Luc prend justement ce mot-là, la lumière de l'éclair. Ce qui se passe là au sommet de cette montagne est unique et singulier. Il est environné d'une lumière extraordinaire. Entre-temps, le même Luc nous dit que ses disciples, les trois, ont sombré dans le sommeil. Ils se sont retrouvés dans une sorte de léthargie ou de torpeur. L'endormissement s'est emparé d'eux pendant que lui était en communion avec le Père, pendant que son corps brillait de plus en plus. Mes amis, la parole de Dieu, dans 1 Timothée chapitre 6, verset 16, nous révèle Dieu comme étant le seul qui possède l'immortalité. Oh, alléluia! Le seul qui habite une lumière inaccessible que nul homme n'a vu ni ne peut voir. C'est vrai. Tous ceux qui ont vu Dieu, ils ont vu une certaine manifestation de Dieu. Mais personne ne pouvait voir Dieu et rester en vie. Moïse avait insisté, « Seigneur, je vais te voir. » Il dit, « Non, personne ne peut voir ma face et rester en vie. » Voyez-vous, que nul n'a vu ni ne peut voir à lui. Et je voudrais que nous puissions lire ensemble. À lui, à Jésus, eh bien, à Dieu, honneur. Alléluia. Le seul qui possède l'immortalité, le seul qui habite une lumière inaccessible, formidable. C'est-à-dire, personne ne peut entrer dans cette lumière. Personne ne peut s'approcher de cette lumière. C'est une lumière inaccessible qui est au-delà, impossible. Sinon, c'est la mort. Regardez notre étoile, le soleil, qui nous envoie la lumière, qui nous éclaire, qui nous envoie la chaleur dont nous avons besoin. Heureusement que la Terre se trouve à une certaine distance du soleil. C'est ce qui permet que la vie poursuive son cours. Il suffit simplement que nous nous approchions un tout petit peu du soleil pour que nous soyons grillés, littéralement. Vous voyez? Et donc Dieu nous est révélé comme étant celui qui habite une lumière inaccessible. Mais la bonne nouvelle ce matin, la bonne nouvelle pour chacun de nous, c'est que ce Dieu immortel, ce Dieu qui habite une lumière inaccessible, ce Dieu que l'on ne peut voir, ce Dieu-là, créateur de toutes choses, qui soutient toutes choses par sa parole toute puissante, ce Dieu qui a appelé à l'existence de choses qui n'existaient pas encore, eh bien ce Dieu-là, inaccessible, revêtu d'une lumière inaccessible, ce Dieu-là est devenu accessible en Jésus-Christ, son Fils bien-aimé. C'est une folie de vouloir entrer en communion avec Dieu, d'approcher ce Dieu-là en dehors de Jésus. Vous ne pourriez pas. Voilà pourquoi il a dit, je suis le chemin, je suis la vie, je suis la vérité. Nul ne peut venir au Père que par moi. C'est lui qui est le chemin. C'est encore lui qui nous prend par la main et qui nous fait entrer dans le lieu très saint. Et là, dans ce lieu très saint, nous pouvons contempler notre Père. Quelle expérience glorieuse pour ces trois disciples. Ils dormaient. Ils étaient frappés par l'endormissement, par le sommeil. Ils étaient, comme je le disais, dans une sorte de torpeur ou de léthargie. Et de là, alors que quelque chose se passait, alors que le Seigneur brillait de plus en plus que le soleil, et que même ses vêtements étaient brillés plus que la lumière de l'éclair, eh bien quelque chose va se passer. Ils vont se réveiller, oh alléluia. Ils sortent de leur sommeil. Qu'est-ce qui les a fait sortir de ce sommeil? Le tam-tam qui aurait été joué quelque part? Non. Parce qu'on avait sonné du chauffard? Non. Parce qu'il y avait des bougies qu'on avait allumées? Non, mes amis. Non. C'est cette gloire rendue visible. C'est le rayon qui émanait de sa personne. Qui les a fait sortir de cet état. Et quand ils ouvrent leurs yeux, eh bien, ils voient le Christ brillant, resplendissant, plus que le soleil. Alléluia. Oui, expérience singulière. Même si cette expérience est vraie, reste unique, reste singulière, et que la probabilité pour nous de vivre in extenso, de vivre dans son intégralité, de vivre dans toute son étendue cette expérience, même si cette probabilité pour nous reste très infime, reste très minime, ah oui. Voyez-vous, maintenant, si un jour vous êtes en prière et que tout d'un coup le Seigneur vous apparaît et qu'il se met à briller, comme ce fut le cas pour Pierre, Jacques et Jean, et qu'en même temps vous voyez Moïse et Élie en train de parler, en train de louer, d'adorer le Seigneur, ben, tant mieux pour vous, n'est-ce pas? Mais c'est très probable. Oui ou non? Même les autres disciples n'ont pas expérimenté cela. Il a fallu beaucoup d'années, presque à la fin du premier siècle, pour que Jean vive une telle expérience, mais cette fois-ci, il avait été enlevé en esprit. Oh, alléluia. Apocalypse chapitre 1er. Oui, même si cette expérience reste, la probabilité de faire cette expérience in extenso reste très minime, très infime, il y a cependant, et ça c'est la bonne nouvelle pour chacun de nous, il y a cependant possibilité pour chacun de nous en tant que disciples du Christ de vivre en compagnie du Seigneur des expériences extraordinaires, des expériences qui nous fassent sortir de notre sommeil spirituel, de notre léthargie, de notre torpeur, vivre en compagnie du Seigneur des expériences de connaître de moments glorieux, des moments précieux, des moments inoubliables, des moments qui nous marquent à tout jamais, des moments qui vont nous amener à dire, comme Pierre, Maître, Rabbi, il est bon pour nous d'être ici. Il est bon que nous soyons ici. Qu'alors, Nestine, il est bon. Pas d'être ailleurs. Il vaut mieux être ici, Seigneur. Comment quitter un lieu comme celui-là pour aller affronter les réalités de la vallée? Comment quitter ces lieux où on est complètement absorbé par sa présence, où il n'y a rien d'autre autour de nous que lui, lui, le Seigneur des Seigneurs. Oui, des moments qui nous amènent à réagir de cette manière, des moments où nous serons tellement remplis de sa présence, tellement environnés de sa gloire, que nous n'aurons pas envie de quitter ce lieu-là. Seigneur, s'il faut me reprendre, je préfère m'en aller auprès de toi. De moments où finalement, tout d'un coup, il n'y a rien qui compte pour nous que notre Père. Alléluia. De moments où nous réalisons enfin et nous expérimentons enfin notre véritable raison d'être ici-bas. Là, dans ce face-à-face, là, dans ce cœur à cœur avec notre Seigneur. Ô Seigneur, que c'est merveilleux. Il nous est bon d'être ici. Il vaudrait mieux que nous restions ici. Vous voyez comment cette expérience les a marqués à tout jamais. Avec Dieu, mes amis, tout est possible. Alléluia. Voilà pourquoi cette escalade, cette montée, cette ascension est indispensable pour chacun de nous. Nous devons comprendre que le Seigneur nous appelle à ça. Nous devons quitter, mes amis, toutes les contingences matérielles, quotidiennes ou autres, laissez tout ça derrière et nous engager dans une vie qui nous permette d'aller de gloire en gloire, alléluia, de monter et à chaque étape de notre montée, de découvrir un aspect de la révélation du Seigneur, de découvrir une nouvelle dimension dans notre expérience avec lui. Gloire à Dieu, alléluia. C'est la seule manière, mes amis, d'amener le réveil. On ne peut parler de réveil que pour des gens qui dorment, oui ou non. Et je peux vous assurer qu'aujourd'hui, l'Église a besoin de réveil. Voyez-vous, ne vous contentez pas de ce que vous voyez autour de vous. Ne vous contentez pas de se dire, enfin, tout le monde prie. Mais tout le monde a toujours prié. Ne tirez pas vite des conclusions ou des conclusions hâtives en disant « Oh, le Seigneur est à l'œuvre, certes, il travaille à Kinshasa. » Vous faites le tour des magasins, vous allez voir que devant toutes les déventures, la plupart des déventures des magasins ou des boutiques, il y a toujours un verset biblique. Il y a toujours le nom de Jésus, oui ou non. Tout à l'heure, en montant, je vois un camion plus que chargé. Voilà, un minibus, je crois. Plus que chargé. Tu te demandes comment ce genre d'automobile arrive même à rouler. Hein? Et je peux vous assurer que si ça roule vraiment, et quelquefois vous avez des gens au-dessus, eh ben vous vous dites que Dieu est à l'œuvre dans cette ville. Voyez-vous, ailleurs, pour un rien, hein, c'est fini. Les gens font du tonneau. Mais ici, vous avez un camion avec les macalas, du charbon, jusque-là, jusqu'au plafond. Alors vous demandez, sous l'effet de la gravité, le centre de gravité, comment ils font quand ils tournent, quand ils prennent des virages. Je ne sais pas. Oui, Dieu est là. Ouais. Quand on voit tout ça, et sur ce camion ou ce minibus, presque surchargé, derrière c'était écrit la promesse de Dieu. Maintenant, vous pouvez avoir une interprétation métaphorique. Autant ce camion était plus que surchargé, autant la promesse de Dieu apporte la surabondance. Mais enfin, bref, dans les bus, sur les esprits des morts, Dieu est avec moi. Et quand vous regardez la personne qui conduit, vous avez peur. Vous demandez, même s'il lui arrive de dormir, les yeux tout rouges, des cheveux ébouriffés, vous vous demandez, vous vous rendez compte que le peigne est passé dans ses cheveux il y a 6 mois. Et donc, tout ça, Dieu est bon. Jésus est mon sauveur. Dieu est ma protection. Enfin bref, si quelqu'un arrive et qu'il voit tout ça, il pourrait se dire, oh là 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 là, Qu'est-ce que les Quinoises et les Quinoises aiment Dieu? Méfiez-vous. Mes amis, nous sommes en train de sommer dans une sorte de léthargie spirituelle et morale. Nos églises sont devenues, mes amis, des pétaudières, des cloaques, des lieux où tous les déchets moraux se retrouvent. Il ne se passe pas un jour sans qu'on entende, sans qu'on parle d'un scandale de la part d'un pasteur, d'un responsable d'église. Vous voyez, nous avons donc besoin, mes amis, d'amorcer cette ascension. Car là, au sommet, c'est la gloire, c'est la transformation, c'est la métamorphose. Alléluia! Il y a un chant qu'on chantait à l'époque, que certains d'entre vous connaissent. Je veux monter sur la montagne, c'est là que l'on rencontre Dieu, c'est là que mon nom de que. Oh, merci. Gloire à Dieu. Vous voyez, je vais monter à la montagne. Je vais amorcer cette ascension. Je voudrais être un alpiniste spirituel. Je ne voudrais pas me contenter de prendre juste, de faire quelques mètres sur cette montagne dont le sommet est élevé, et puis de se dire, tiens, il y a la vallée là-bas avec toute la pollution morale et spirituelle, il y a la vallée avec toute la médiocrité. Et puis moi, je suis ici, ça m'arrive quand même aux chevilles, mais enfin, non. Le but, c'est de monter. Monter encore et encore. Alléluia. Et la question que l'on peut se poser ce matin est comment amorcer cette ascension? Comment démarrer cette escalade susceptible de nous amener, mes amis, jusqu'au sommet de la montagne afin de vivre des moments mémorables, des moments précieux, inoubliables avec notre Dieu, afin d'expérimenter la gloire du lieu secret? Eh bien, la réponse à cette question se trouve dans le passage que nous avons lu. Nous y trouvons en effet quatre informations indispensables. Quatre informations qui sont là comme une boussole, qui nous indiquent où se trouve le lieu secret. Quatre vérités importantes, capables, susceptibles de nous aider, mes amis, à vivre des moments mémorables, des moments exceptionnels, des moments glorieux, des moments, mes amis, qui contribuent à notre transformation profonde, des moments où notre vie se trouvant totalement, entièrement entre les mains du divin potier, eh bien, ces derniers les modèlent, les façonnent, les malaxent, les transforment pour faire de nous des vases d'honneur, dont le contenu n'est pas notre ego, dans la plupart des cas, un ego surdimensionné, dont le contenu n'est pas un ego cupide, un cœur qui convoite, mais plutôt le contenu, la présence même du Seigneur. Sa présence est vie, esprit pour nous. Alléluia. Gloire à Dieu. Quelles sont ces quatre informations? On va juste introduire la première aujourd'hui. Ces quatre points, ces quatre balises, ces quatre vérités. Premièrement, tout commence avec ceci. Au verset 2 de Marc, chapitre 9, Jésus prie avec lui. Oh, alléluia! Il prie avec lui Pierre, Jacques et Jean. Ça aurait pu être Thomas, Philippe et André, peu importe. Mais il se trouve que ce sont ces trois-là que le Seigneur prie avec lui. Alléluia. Deuxième vérité, deuxième balise. Jésus les conduisit. Nous sommes toujours au verset 2. Il les conduisit. Troisième vérité, il les conduisit, non pas pour faire prendre part à une partie de pêche. N'oubliez pas que nous sommes au bord du lac de Galilée. Hein. N'oubliez pas qu'ils étaient pêcheurs, n'est-ce pas? Et donc, en disant, écoutez, nous allons faire une petite partie de pêche, nous allons faire ceci. Non, pas du tout. sur une haute montagne, au sommet de la montagne de transfiguration. Et enfin, quatrième vérité, seul à l'écart. Oh, alléluia. Seul. Et nous allons voir. Ceci ne veut pas forcément dire s'élancer dans une vie monacale, une vie d'ermite. Voyez-vous, on laisserait tout. On se renfermerait dans un monastère à l'écart. Non, car beaucoup qui ont agi de cette manière, qui ont cru fuir le monde en allant s'enfermer dans un monastère, dans un couvent, ont vite déchanté. Ils se sont rendus compte que le monde, c'était plus qu'à l'extérieur, mais plutôt en eux-mêmes. Oui ou non? La mondanité est un état d'esprit qu'on peut traîner partout. Vous pouvez être en prison, enfermé dans une cellule, et être foncièrement mauvais, et être foncièrement mondain. Vous voyez, donc ce n'est pas une mise à l'écart dans le sens littéral du terme. Oui, ça peut arriver, mais c'est d'abord là, au niveau de notre cœur. Alléluia. Et donc, je reprends. Jésus prie avec lui, il est pris avec lui. Jésus les conduisit, deuxièmement. Jésus les conduisit où? Troisièmement, sur une haute montagne, le lieu. Et enfin, seul à l'écart. Le bruit est derrière eux dans la vallée, n'est-ce pas? Tout dans la vallée, seul à l'écart. Voyez-vous, gloire au Seigneur. Alors, commençons avec le premier point. La première vérité. Jésus prie avec lui, Pierre, Jacques et Jean. Il les prend pour être avec lui. Cela est important. Il les prie avec lui. Tout commence avec le Seigneur. Tout commence avec ce Jésus qui fait une démarche vis-à-vis de ses disciples. C'est donc lui qui les prend. Non pas pour les abandonner quelque part. Voyez-vous? Sur le flanc, un des flancs de la montagne, pas du tout. Mais il les prend avec, oh alléluia, être avec Jésus. Telle est notre première vocation. Vous ne pouvez pas vous attendre à expérimenter la gloire du lieu saint ou du saint de saint, la gloire du lieu secret, si vous n'apprenez pas à être avec Jésus. Tout commence avec lui. Les plus grandes expériences, les expériences les plus glorieuses, ont pour origine Jésus. Oh, alléluia! Ont pour commencement Jésus. Il est au commencement de tout. Il est aussi à la fin de tout. En cela, il se révèle comme étant l'alpha et l'oméga, l'aleph et le tav, pour utiliser l'alphabet hébreu. Jésus. Il les prend avec lui. Voilà notre première vocation, être avec Jésus. La raison d'être de notre rassemblement de ce matin, c'est que chacun de nous soit avec Jésus. Là où tu es assis, que tu sois sûr qu'il est avec toi. Ça sert à quoi de venir et de le laisser quelque part? De venir simplement tiré par l'ambiance qui règne? Oh, nous avons une très belle chorale. Voyez-vous que ça soit Sion, comme c'est le cas. Sion, vous êtes là? Vous pouvez me saluer? Je vous salue également. Que ça soit la grande chorale, que ça soit la jeunesse, que ça soit même à la dévotion musicale. Nous avons des gens qui chantent merveilleusement bien. Tout ceci peut vous attirer. J'aimerais vous dire que le pasteur Elbaz, que je salue, parce qu'il est pour le moment à Abidjan, et puis de là, il va retourner à Tel Aviv et à Jérusalem. Il n'a pas arrêté de faire des éloges. Il a dit, mais ce groupe, cette chorale, pasteur, c'est extraordinaire. Il m'a même dit, parce que lui, le responsable de TBN francophone. Ils font des émissions pour TBN. Si vous pouviez me les amener en Israël. Ah. Nous pourrions faire des émissions sur le mont Sion, des émissions là à Golgotha, bref, à Jérusalem. Oui, cette ambiance peut vous intéresser. Et vous pouvez venir vous frotter à cette ambiance. Yes, Josalia. Ah, mon oui, quoi, pas. Tout chaise. Betoubine. Vous pouvez vous venir et vous frotter à cette ambiance. Mais je peux vous assurer que la musique est devenue une véritable distraction. Je dois vous le dire. Je bénis Dieu. Nos chorales, avant de commencer le culte, ils prient. Oui ou non? Eux tous. Et quand ils ont fini, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, ils prennent aussi un temps pour remercier le Seigneur. Ça, c'est le plus important. Voyez? Mais ailleurs, on organise des concerts, soi-disant, de louanges, d'adoration. Et moi, la question que je me pose, quelle est la motivation derrière? Quelle est la motivation? Quelquefois, on fait payer aux gens, attention avec maman, l'amour de l'argent nous tue. Il y a des passeurs qui ont tourné Kazakh à cause de l'argent. Ils sont dans le ministère, mais c'est simplement un job comme tant d'autres jobs. Voilà. Ils sont complètement possédés par l'amour de l'argent. Ce n'est pas ça la priorité. Vous avez des belles voix, mes enfants. Vous jouez les instruments de manière extraordinaire. Comme je disais une fois, j'ai vécu dans un quartier quand on était ado. Vous savez, des quartiers comme il y en a un peu partout, là, Jadoville, quelque part. Et dans le quartier, il y avait des vieux du quartier qui jouaient des guitares, mais qui n'avaient jamais été dans des académies. C'était des guitares qu'on bricolait et tout ça. On mettait quelques fils et puis j'ai tout fait. J'ai essayé. Je les ai regardés. J'ai pris la guitare. Je ne suis jamais arrivé. Alors je ne sais pas. Vous voyez, on ne peut pas tout recevoir. Hein? Mais le plus important, au-delà des talents que le Seigneur nous a donnés et dont il nous a dotés, au-delà des dons que nous avons reçus de sa part, ce qu'il attend de chacun de nous, d'abord et avant tout, c'est que nous soyons avec lui. Il les a pris pour être avec lui. Et cette expérience au sommet de la montagne de la transfiguration a été rendue possible parce que lui les avait eus pour être avec eux. Les trois disciples faisaient partie de 12 que le Seigneur avait appelés pour être des apôtres. Ils avaient eu cette grâce extraordinaire d'être choisi, d'avoir été choisi parmi tant d'autres disciples. Le Seigneur reste souverain. Voyez-vous, il appelle qui il veut. Et quand il appelle, il ne regarde pas notre arrière-plan. Il ne regarde pas l'état de notre cerveau. Nous pouvons avoir un cerveau à plusieurs étages. Nous pouvons avoir un cerveau qui n'a même pas d'étage, qui a juste une cave. Vous comprenez, hein? Nous pouvons avoir un cerveau qui a à peine un petit niveau qu'on confond avec la cave. Mais il appelle qui? Il veut. Car le plus important, ce n'est pas tant d'avoir une grosse tête. S'il nous appelle, c'est parce que lui seul est capable de nous rendre capable de le servir. Donc, ils avaient été appelés pour être apôtres. Et pour qu'ils accomplissent leur apostolat, ils avaient reçu de la part du Seigneur la puissance et l'autorité sur tous les démons, ainsi que le pouvoir de guérir toute maladie et toute infirmité. Il leur avait donné tout cela. Ensuite, il les a envoyés prêcher le royaume de Dieu. Il les a envoyés proclamer le règne de Dieu. Alléluia. Tout cela faisait partie de leur vocation. Chasser les démons, ils en ont chassé, n'est-ce pas? Guérir les malades, ils en ont guéri. Voyez-vous? Et prêcher la bonne nouvelle. Ils en ont prêché. Et gloire à Dieu. Mais quelle était leur première vocation? Prêcher la bonne nouvelle, annoncer l'évangile, chasser les démons, les esprits impurs. Quelle était leur première vocation? Guérir les malades, les infirmes, faire voir les aveugles? Non, non et non. Même si tout cela faisait partie de la mission qu'ils avaient reçue de la part du Seigneur, quel était alors leur premier appel, leur première vocation? Et là encore, c'est l'évangéliste Marc qui répond. Marc au chapitre 3, 14 à 15, avant de terminer. 14 à 15, voilà. Il, donc Jésus, en établit 12 pour les avoir avec lui et pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser les démons. Il les a établis d'abord pour être avec. Alléluia. Il les a établis, il les a appelés. Il leur a confié la mission, mais la première mission, la première vocation, c'est qu'ils soient avec lui, être avec Jésus. Voilà notre première vocation, mes amis. Être d'abord en communion avec le Seigneur, passer plus de temps avec lui, et c'est seulement après aller faire le travail qu'il nous a confié, aller prêcher l'évangile, guérir, et plutôt prier pour les malades en vue de leur guérison. Chasser les démons. Nous trouvons la même pensée dans 1 Corinthiens chapitre 1, verset 9, qui nous dit ceci. Dieu est fidèle. Lui qui vous a appelé à quoi? À la communion de son Fils ou à la communion avec son Fils, Jésus-Christ notre Seigneur. Mes amis, voilà le premier appel. Tout commence là. Être avec Jésus. Voyez-vous? C'est l'appel qu'il adresse à tous ceux qui l'ont reçu comme Seigneur et Sauveur. C'est l'appel qu'il adresse à tous les croyants, tous ses enfants. Voilà donc, mes amis, la priorité de la vie chrétienne. Être en communion avec lui. Passer plus de temps avec lui, comme nous le faisons. Ne pas attendre seulement le dimanche pour enfin se tourner vers lui et dire, Seigneur, mais voici, je voudrais passer du temps avec toi. Et ce, dans la prière, et ce, dans la méditation de la parole. Mais ça doit être une expérience que nous vivons au quotidien. Alléluia. Être en communion implique donc une vie de sanctification, une vie d'obéissance à sa parole, une vie centrée sur lui. Et nous terminons par 2 Corinthiens 7, verset 1er, où l'apôtre Paul dit ceci, « Puisque nous avons de telles promesses, et ces promesses sont énumérées à la fin du chapitre 6. Bien-aimés, purifions-nous de toute souillure, de la chair et de l'esprit, donc en pensée, en développant jusqu'à son terme la sainteté dans la crainte de Dieu. » Voilà. C'est ce qui va nous permettre d'être avec Dieu, qui va nous permettre d'être avec le Seigneur. Si vous menez une vie marquée par l'impureté, vous êtes constamment visité par des pensées impures, voyez-vous, et donc votre cœur est rempli de cupidité, de convoitise, même là où, pendant que je prêche, vous pensez déjà à ce qui va se passer à l'Assemblée nationale. Attention. C'est bien d'aller à l'Assemblée nationale, c'est encore mieux d'y aller avec Jésus. De demeurer avec lui. Alléluia. Et là, vous serez des vrais parlementaires. Et là, vous comprendrez que si vous avez été élu, vous parlementaires, ce n'est pas pour dominer sur vos électeurs, mais plutôt pour les servir. Alléluia. Oui, parler de communion avec Jésus, mes amis, c'est de parler de la nécessité d'une vie marquée par la prière, par la méditation de sa parole, par la crainte de son nom. Alléluia. Voilà notre premier appel, être avec Jésus. Dans cette escalade, dans cette ascension, eh bien, nous devons apprendre à être avec lui, non pas seulement le dimanche, mais encore lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, et puis dimanche, oui, encore avec lui. Et cette fois-ci, nous nous retrouvons dans la grande assemblée. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons prier avant de prendre les offrandes. Nous voulons te remercier, notre Père, pour le message de ta parole. Seigneur, tu nous as établis, tu nous as appelés à toi, et tu t'attends à ce que, Seigneur, nous puissions apprendre à passer plus de temps avec toi, à privilégier notre communion avec toi. Plus nous sommes en communion avec toi, mieux notre relation avec toi sera. Alors aide-nous à avoir une relation de qualité. Et cette relation n'est possible que dans la mesure où, Seigneur, nous nous purifions de toute souillure de la chair et de l'esprit. Où, Seigneur, nous vivons une vie marquée par l'obéissance à ta parole. Merci pour tout. Bénis maintenant les paniers des offrandes, Seigneur, que ce soit pour les offrandes, les dîmes pour l'Église, mais aussi pour le compte construction, car nous voulons démarrer les travaux très bientôt. Merci Jésus. Amen.